enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Je veux terminer, eh bien, ce que nous avions commencé, la guérison divine. Et ce matin, eh bien, le thème que nous allons aborder, c'est simplement comment prier pour les malades. Comment prier pour les malades, que nous dit l'Écriture ? La fois dernière, nous avons vu que Dieu est souverain, n'est-ce pas ? La souveraineté de Dieu et les promesses de Dieu sont deux chemins parallèles. Ils ne sont pas paradoxaux, mais ils se complètent. Nous pouvons demander quelque chose à l'Éternel, mais conscient que l'Éternel nous aime et qu'il est un Père pour nous, nous sommes également prêts à accepter ce qu'il fera, quand même ce qu'il fera est différent de ce que nous avons demandé. Il est souverain. Je ne reviendrai pas là-dessus, si vous n'étiez pas là lors du dernier message ou des deux premiers, vous pouvez vous les fournir à la librairie. Mais ce matin, j'aimerais avec vous voir comment prier pour les malades. Alors, lorsque vous lisez les évangiles, vous n'y trouvez pas, eh bien, des formules toutes faites. Vous n'y trouvez pas non plus un manuel pratique sur la façon de guérir. Mais si nous suivons le maître qui guérit, Jésus, alors nous devons comprendre comment son Père l'oriente et comment l'Esprit lui donne l'autorité et la puissance. Frères et sœurs, nous pouvons tirer des leçons de ce que nous lisons dans les Écritures. Nous pouvons également voir de quelle manière Jésus priait pour les malades, et plus tard, l'Église primitive priera pour les malades. Et c'est à cela que je voudrais m'atteler ce matin. Le premier point que j'aimerais aborder avec vous, un point sur lequel Jésus a été très clair quant à la manière de prier pour les malades, il nous dit « Ils poseront les mains sur les malades ». Ce sera mon premier point, l'imposition des mains. Marc 16, versets 17 et 18. « Et voici à quel signe on pourra reconnaître ceux qui auront cru. Ils chasseront des esprits mauvais en mon nom. » Ils parleront des langues nouvelles. S'ils prennent des serpents dans leurs mains ou boivent du poison, il ne leur arrivera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Je vais un peu plus loin avec vous, Matthieu 8, versets 14 et 15. Voyons ce que Jésus pratiquait lui-même. Jésus se rendit à la maison de Pierre. Il y trouva la belle-mère de Pierre au lit. Elle avait de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et se mit à le servir. Marc 6, verset 5. Jésus, à Nazareth donc, ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il posa les mains sur quelques malades et les guérit. Luc 4, 40. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de divers maux les amenèrent à Jésus, il posa les mains sur chacun d'eux et les guérit. Et puis, dans le livre des Actes, j'aurais pu prendre bien sûr encore d'autres versets où nous voyons que Jésus imposera les mains, il est dit, le père de Publius était au lit, il avait de la fièvre et de la dysenterie. Paul alla le voir, pria, posa les mains sur lui et le guérit. Comment prier pour le malade ? La parole de Dieu est claire. Nous sommes appelés à lui poser les mains sur son corps. Alors, pourquoi l'imposition des mains ? Eh bien, l'imposition des mains n'est pas un acte rituel ou un acte de magie. Nous n'avons pas de fluide. L'imposition des mains est d'abord un acte de foi et d'obéissance à ce que Christ a commandé et fait lui-même. Deuxièmement, c'est un acte d'obéissance. et je voudrais aller plus loin, c'est un acte d'obéissance dans lequel nous allons communiquer de la puissance. Vous verrez avec moi, et nous allons y venir, eh bien que constamment et régulièrement, on imposait les mains aux malades, ou alors, même dans les cas exceptionnels, celui qui était malade, d'une manière ou d'une autre, touchait quelque chose de celui qui priait. Je prends pour exemple l'apôtre Pierre. La Bible nous dit que l'ombre de Pierre guérissait les malades. C'est-à-dire que si un malade passait par mon ombre là, il était guéri. Les mouchoirs de Paul et les linges qui avaient touché Paul, lorsque le malade entrait en contact avec ce qui lui avait appartenu, il y avait guérison. Cependant, j'aimerais dire que ce n'était pas une pratique courante. Ce n'est pas une doctrine. Il ne s'agit pas maintenant de distribuer les mouchoirs du papa Jean. Il ne s'agit pas non plus de mettre un projecteur aux frères le mardi soir pour que vous marchiez dans leur ombre. C'était des moments particuliers et c'était également des directives particulières. Cependant, je crois que ces choses-là peuvent arriver. Par contre, l'imposition des mains nous a été donnée comme une pratique régulière. Que se passait-il chez Jésus? Lorsque vous observez dans Luc 6, il est dit « Jésus descendit de la colline avec eux et s'arrêta en un endroit plat où se trouvait un grand nombre de ses disciples ». Il y avait aussi là une foule immense, des gens de toute la Judée, de Jérusalem et des villes de la côte, Tyr et Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux que tourmentaient des esprits mauvais étaient guéris. Écoutez maintenant, tout le monde cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Tout le monde cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Souvenez-vous que Jésus n'a guéri aucun malade avant d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et ce n'est qu'à partir du moment où la puissance de l'Esprit descendra sur lui que les démons seront chassés et les malades seront guéris. Jésus dit avant de partir, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Et vous serez mes témoins. Si Jésus nous dit de poser les mains sur le malade, c'est tout simplement parce qu'il y a là une communication de force qui n'est que la puissance et la présence du Saint-Esprit en nous. Et le Saint-Esprit agit en permettant par le nom de Jésus au malade d'être guéri. Mais vous pouvez lire l'Écriture, constamment l'imposition des mains revient. Et l'imposition des mains n'est pas simplement un acte rituel. L'imposition des mains, ce n'est pas quelque chose qu'on fait simplement parce que c'est écrit. Il faut que nous soyons conscients qu'au moment où je touche le malade, je lui communique quelque chose, non pas venant de moi, parce qu'en moi il n'y a rien, mais venant de Dieu, parce que je suis le temple du Saint-Esprit dans lequel Dieu habite par son esprit. Et là, il se produit quelque chose. Mon frère, ma sœur, ça signifie également que quand je prie pour les malades, je dois être un temple saint. Quand je prie pour les malades, je dois être un temple dans lequel le Saint-Esprit agit et habite réellement. Plus, je crois, nous nous approchons de Dieu, plus son onction est sur nous, plus sa gloire se manifeste également au travers de la guérison divine. Je pourrais prendre l'exemple de la femme à la perte de sang, vous la connaissez tous. Jésus reconnut qu'une force était sortie de lui. Pourquoi ? Cette femme l'avait touchée, mais non pas comme les autres, elle l'avait touchée avec foi. Vous voyez donc qu'il y a une différence entre les gens qui viennent avec foi et qui reçoivent parce que la foi leur permet d'obtenir et ceux qui ne viendraient que, eh bien, pour toucher sans foi. Mes frères, mes sœurs, lorsque nous prions, je crois qu'il est essentiel que nous réalisions, eh bien, que nous communiquons une force qui ne vient pas de nous, mais de l'Esprit. Ce n'est pas un fluide, ce n'est pas un magnétisme, c'est une puissance qui vient de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui agit au travers de vous. D'ailleurs, l'Esprit est toujours, j'y reviendrai, intimement lié au moment des guérisons. Regardez, rien que les dons de l'esprit, dons de miracles, dons de guérison, c'est l'esprit qui le donne. C'est l'esprit qui le donne. On y reviendra. Alors comment imposer les mains ? Vous ne trouvez dans la Bible aucune directive précise. Chez la belle-mère de Pierre, qu'a-t-il fait ? Il lui a touché la main. Il ne nous est pas dit, faut mettre la main sur la tête. Il ne nous est pas dit, mettez la main à l'endroit malade. Ça pourrait être extrêmement gênant d'ailleurs, suivant l'endroit. Un jour d'ailleurs, il m'est arrivé une aventure en Afrique. Je priais pour les malades et je me suis dit, avant que tu rentres en France, il faut absolument que des frères africains prient avec toi pour qu'au moment où tu partes, les gens acceptent également ces frères-là de manière à ce qu'ils puissent prier pour eux. Alors, j'en prends un, je lui dis, viens avec moi, on prie ensemble. Arrive une dame et la dame me dit, voilà, au niveau de ma poitrine, il y a des choses qui ne vont pas. Ok, pas de problème, on prie pour elle mon frère. Je mets les mains sur la tête, je prie tout mon cœur. Au moment où j'ouvre les yeux, je dis « Oups !» Le frère avait imposé les mains. Pff. Il ne savait pas. Lui, il s'est dit « On impose les mains aux malades où ils ont mal. » J'ai dit « Seigneur, tu sais tout. » Mais il était sincère. Donc, nous n'avons pas d'indication précise, si ce n'est de le toucher sur l'épaule, sur la tête, où vous voudrez, pas où vous voudrez, où c'est possible, d'accord ? Quand c'est possible, Dieu sait aussi quand ce n'est pas possible. Vous avez parfois des gens en chambre stérile, etc., où c'est très difficile, et quand c'est possible, on lui impose simplement les mains en le touchant. Il n'est pas dit non plus... Eh bien, pour que le courant passe mieux, il faut vraiment appuyer sur la tête. Vous avez jamais vu ça ? Viens voir Jean-Claude, viens. Moi, j'ai déjà observé. Vous savez, je suis quand même observateur, je regarde. Des personnes qui imposent les mains. Oh non, Jésus, tu vas être guéri. Oh non, Jésus, tu... Et après, on te dit que c'est l'esprit. Tu rigoles ? Ça, c'est pas l'esprit. Ça, c'est justement une démonstration que nous manquons d'esprit. Parce que si on avait, on n'a pas besoin de les pousser. La grand-mère, on n'avait rien besoin de faire pour qu'elle rie. Hein. D'ailleurs, moi, je n'avais pas du tout envie de rire ce soir-là. Mais quand l'onction vient, ça se fait. Est-ce qu'il faut leur mettre un doigt ici ou ici ou... Mais non. Mais non. Simplement, comme un enfant, ils imposeront les mains. Ici ou ça, où c'est possible. Mais à ce moment-là, nous croyons que quelque chose se passe. L'imposition des mains n'est donc pas simplement un acte rituel qu'on fait à la légère. C'est un acte saint dans lequel l'on communique la guérison. Je voudrais aller plus loin avec vous et voir un deuxième point, c'est l'onction d'huile. Alors, dans la parole de Dieu, vous pouvez discerner les disciples qui, dans... Les évangiles oignaient d'huile les malades, et ça dans des moments d'évangélisation, avec la pratique de l'église primitive, la pratique de l'église locale, selon Jacques 5. On va y arriver. Première question, pourquoi l'huile ? Là, de nouveau, pourquoi l'huile ? Dans l'ancienne alliance, vous vous rendrez compte que quand on choisissait un roi, on l'oignait avec... de l'huile. Il était donc mis à part pour ce service. L'onction lui était faite. Mais remarquez qu'à partir du moment où l'onction lui était faite, il arrivait souvent que la puissance de l'esprit se manifestait. Déjà dans l'ancienne alliance. Je prends pour exemple Saül. Dans 1 Samuel 10, verset 1, il est dit « Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. » Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage ?» Verset 9, « Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre, l'Esprit de Dieu le saisit, et il prophétisa au milieu d'eux. » David, 1 Samuel 16, Samuel prit la corne d'huile, il l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel le saisit. Il l'oint d'huile pour la fonction qu'il devait remplir, être roi, et qu'il remplira bien plus tard. Mais au moment donné où l'huile lui est appliquée, déjà dans le ciel, il est mis à part. Déjà l'autorité de Dieu vient, déjà l'Esprit de Dieu le saisit. Lorsque vous regardez dans le tabernacle, tous les ustensiles étaient oints. On avait oint, même les couverts avaient été oints. Vous avez les vases sacrés, vous avez la cuve avec sa base, l'autel des holocaustes, tout était absolument oint. Cependant, dans le Nouveau Testament, vous ne trouvez absolument plus cela. Vous ne voyez jamais les apôtres oindre, par exemple, un ustensile. Jamais vous ne voyez Jésus oindre une porte, par exemple. Pourquoi ? Parce que maintenant, c'est vous et moi qui sommes les temples du Saint-Esprit. C'est vous et moi qui sommes l'ustensile. J'ai eu entendu dire que dans certains endroits, on allait oindre les chaises de l'église pour qu'elles soient consacrées, mises à part. Frère, un pasteur suisse était très en colère un jour. Il m'a dit, mais alors tu te rends pas compte, hein? Mais tu te rends pas compte. Je dis, qu'est-ce que t'as? Il dit, mais j'ai un de mes frères. Il a entendu dire qu'il fallait tout consacrer par l'huile. Je dis, oui, alors. Il m'a oint d'huile toutes mes chaises. Tout le monde est venu avec le beau costume. Ils ont tous des taches. Ne confondez pas l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. L'onction de Dieu veut descendre sur vous et sur moi. Tout ce qui est mis à part pour Dieu était oint d'huile. Et l'huile, vous le savez, est fréquemment dans l'Écriture le symbole du Saint-Esprit. Maintenant, écoutez bien. Dans le livre du Lévitique, chapitre 14, versets 15 et 16, il nous est parlé de la purification du lépreux. Vous l'avez peut-être déjà lu. Lorsque le lépreux arrivait chez le sacrificateur, d'abord, il lui appliquait du sang. Il lui appliquait du sang sur le lobe de l'oreille droite, sur le pouce de la main droite et sur l'orteil droit. Ensuite, il l'arrosait 7 fois avec de l'huile, puis il recommençait à lui mettre de l'huile sur le lobe de l'oreille droite, de l'huile sur le pouce de la main droite et de l'huile sur l'orteil droit. Au travers de toute l'Écriture, et j'aimerais vraiment que vous puissiez vous mettre ça dans le cœur, l'huile d'onction représente l'œuvre du Saint-Esprit. Mais remarquez, l'huile d'onction n'était appliquée qu'après que le sang ait été appliqué sur lui. D'abord, le lépreux recevait le sang et ensuite l'huile. L'onction de l'Esprit ne vient que là où le sang déjà a couvert, effacé et lavé. La lèpre dans l'Écriture est une image du péché. La lèpre est un symbole du péché. Il ne s'agit donc pas de oindre quelqu'un qui n'est pas croyant. Il s'agit d'oindre des hommes et des femmes qui d'abord ont reconnu Jésus comme le Sauveur. Vous n'allez pas appliquer l'huile d'onction avant que le sang ait été appliqué. Aujourd'hui, nous n'appliquons plus le sang parce que c'est le sang de Jésus qui nous purifie lorsque nous venons à lui. Mais après avoir été purifié par son sang, l'huile d'onction et l'onction de l'Esprit vient sur nous. Mon frère, ma sœur, lorsque je regarde dans Marc 6, versets 12 et 13, il est dit, ils partirent. Et ils prêchèrent, qu'est-ce qu'ils prêchèrent ? La repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Les disciples étaient des juifs. Ils avaient une connaissance parfaite. de la religion de leur père. Ils savaient également quel était le symbole de l'huile, comment l'appliquer. Il est évident que l'évangile était prêché, la repentance était prêchée, les hommes et les femmes se repentaient, après on priait pour eux, et dans ce cas-là précis, on oignait d'huile. On n'oignait pas forcément d'huile dans le même état d'esprit que dans Jacques 5. On oignait d'huile simplement parce que la personne était maintenant mise à part et l'onction de l'esprit allait descendre sur eux pour la guérison. L'onction d'huile, eh bien, fait toujours appel également à la présence du Saint-Esprit. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 1 Corinthiens 12, verset 7, il est dit « Or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune ». En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, une parole de connaissance, et je vais un peu plus loin. À un autre, le don des guérisons par le même Esprit, un autre, le don d'opérer des miracles. C'est l'Esprit qui agit. C'est l'Esprit qui donne. Jésus n'a guéri personne avant que l'Esprit soit sur lui. Lorsque nous oignons d'huile un malade, nous mettons sur lui ce qui est l'image du Saint-Esprit. Nous croyons que le sang a déjà passé sur sa vie et qu'il s'est repenti. Et nous lui communiquons alors ce que le Seigneur a préparé pour lui, la guérison. Mon frère, ma sœur, je parle ce matin peut-être un peu plus en détail de ces choses-là pour que nous réalisions également tout le sérieux. Parce que maintenant, je voudrais arriver à l'onction d'huile dans le cadre de l'Église. Alors, dans le cadre de l'Église, nous ouvrons la Bible dans Jacques 5, versets 13 à 16. Me laissez-vous encore un peu de temps. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie ? Point. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques ? Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Point d'interrogation. Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Nous avons là la description de ce que nous devons faire. D'abord, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? Que doit-il faire ? Qu'il prie. La première des choses quand je suis dans la souffrance, c'est prier. Nous continuons ensemble. La deuxième, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. Les responsables, les frères responsables sont appelés à prier pour le malade en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. C'est au nom du Seigneur que nous allons prier. Et c'est spécifié là. C'est au nom du Seigneur. Nous l'oignons d'huile et nous prions pour lui au nom du Seigneur. Maintenant, troisième étape. La prière de la foi. C'est une prière de foi. C'est une prière de confiance. Ce n'est pas n'importe quelle prière. Ce n'est pas simplement raconter une histoire en lui ayant imposé les mains et en l'ayant oint d'huile. Non, c'est une prière de foi. La prière de foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Nous sommes là dans le contexte de l'onction d'huile appliquée dans le cadre de l'Église locale. Il y a là une description dans ce que nous sommes amenés à faire. Rappelez-vous, le sang précède l'onction. Dans ce texte précisément adressé aux croyants, il est dit « S'il a péché, il lui sera pardonné ». Ça, c'est déjà une assurance que tu as. Si j'ai péché, il me sera pardonné. Cependant, il nous est également dit dans ce texte, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Lorsque j'arrive dans le cadre de l'Église demandant l'onction d'huile, il est nécessaire de comprendre que l'onction d'huile n'est pas seulement une démarche pour le bien-être physique, mais c'est bien plus profond que cela. Dieu veut également que ton âme soit en bonne santé. Et en fait, c'est précisément cette facette-là que Dieu veut aborder, l'état de ton âme. S'il a péché, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns pour les autres et priez les uns pour les autres. Lorsque je prie pour quelqu'un qui a péché, je me repens avec lui et je demande le pardon de Dieu. En fait, le sang couvre alors la faute de la personne. Jésus efface cette faute, l'huile ensuite. C'est l'onction qui vient pour sa guérison. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Souvent, nous arrivons et nous demandons comme ça vite l'onction d'huile entre deux. Je pense que l'onction d'huile est une démarche beaucoup plus sérieuse. Je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus profond que simplement « faites-moi vite l'onction d'huile ». Je pense que l'onction d'huile, et j'en suis convaincu, demande d'abord un examen personnel de soi-même. L'onction d'huile nous amène à réfléchir sur nous-mêmes, à scruter notre conscience pour savoir « y a-t-il quelque chose qui fait obstacle ?» Lorsque Jésus enseigne dans Luc sur la prière, après que les disciples lui aient demandé, il va leur enseigner le Notre Père, mais ensuite, il leur donne une parabole qui suit. Et cette parabole contient la chose suivante. Si vous demandez, vous recevrez. Si vous cherchez, vous trouverez. Et si vous frappez, on vous ouvrira. Parfois, il faut chercher pourquoi le Seigneur ne peut-il pas intervenir. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait dans ma situation que Dieu ne peut pas ? Et c'est justement là qu'il y a certainement besoin parfois de confession. Pourquoi les responsables de l'Église ? Eh bien, de préférence, pour que ce qui soit confessé, bien reste entre les deux interlocuteurs. Si vous recevez une confession de quiconque, vous avez la responsabilité de ne plus jamais, la répéter. Plus jamais. Je prie ensuite avec lui. Je l'amène à la croix. Je l'amène à la repentance. Et après, je l'oins d'huile, je prie pour lui au nom du Seigneur. Et je crois que le Seigneur, non seulement le guérit physiquement, mais le guérit spirituellement. Ceci m'amène à dire la chose suivante. Je souhaiterais dans l'avenir, je parle là bien sûr des croyants, je ne parle pas des personnes qui arrivent, qui donnent leur cœur au Seigneur, qui se repentent et qui, eh bien, auraient ou demanderaient l'onction d'huile comme dans les évangiles. Non, je parle des croyants. Dans l'avenir, si quelqu'un désire l'onction d'huile, je crois que plutôt que vite ici le mardi soir, quelques-uns de nos frères responsables se tiendront à votre disposition pour l'onction d'huile, mais il serait alors intéressant, lorsque vous savez qu'il y a quelque chose à confesser, que vous disiez aux frères, ne pourrions-nous pas aller à part, dans une salle, je puisse avoir un entretien, j'ai besoin de confesser certaines choses avant que tu pries pour moi et me oignes d'huile. Nous voulons une démarche qui soit des plus sérieuses possibles. Et nous voulons honorer ce que Dieu nous dit dans sa parole en agissant selon ce qu'il nous dit. Donc si dans l'avenir, vous venez pour demander l'onction d'huile, d'abord préparez votre cœur. D'abord cherchez, demandez au Seigneur. Si le Seigneur vous montre quelque chose, ou si vous savez, là j'ai de l'amertume, j'ai de la haine, ça ne vaut pas la peine de demander l'onction avant la repentance. D'abord repentez-vous, d'abord mettez en règle, d'abord pardonnez, d'abord acceptez de faire cette démarche. Et ensuite, je crois que nous verrons aussi beaucoup plus de guérison au milieu des croyants. Ça, j'en suis convaincu. Parce qu'il y a des étapes que Dieu, lui, ne franchit pas. Même si nous les franchissons, lui ne les franchit pas. Il nous ramènera toujours, toujours jusqu'à la base afin que nous passions par là où il le veut. Est-ce que c'est clair ? La prochaine fois que tu demandes l'onction d'huile, prépare-toi. Peut-être qu'il n'y a rien. Et s'il n'y a rien, si le Seigneur ne te montre rien, viens, demande l'onction d'huile, elle te sera. On t'oindra d'huile aussi simplement qu'on impose les mains. Mais peut-être que le Seigneur te montre quelque chose, que là il y a besoin de repentance. Alors là, demande à l'un des responsables d'aller avec toi dans une autre pièce. Ça pourrait être la chapelle à l'arrière, etc. Et puis vous aurez un entretien pour que vous puissiez aller plus loin. Moi, de mon côté, je veux veiller également à ce que toute personne qui a reçu une confession ne la divulgue plus jamais. Ça, c'est essentiel. Je dis les anciens, ça peut aussi être les pasteurs, bien sûr. D'autres moyens que Jésus utilisait pour guérir. Eh bien, voyez-vous, il chassait les démons. Et après que les démons aient été chassés, des malades étaient guéris. Certaines maladies, alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que tous les malades sont dépossédés. Mais dans l'Écriture, il est clair que eh bien, certaines maladies avaient à l'origine une puissance démoniaque. Je prends un exemple. Lorsque Jésus priera pour des muets, alors qu'il s'en allait, on amena à Jésus un homme qui était muet parce qu'il était possédé d'un esprit mauvais. Il était muet parce qu'il était possédé. Dès que Jésus eut chassé cet esprit, le muet se mit à parler. Dans la foule, tous étaient remplis d'étonnement et disaient « On n'a jamais rien vu de pareil en Israël ». Remarquez également que quand Jésus chassait les démons, il n'imposait pas forcément les mains, même rarement. Il commandait aux démons de quitter, mais ne touchait pas le possédé forcément. Il y a une situation où il le touche, c'est une femme possédée, elle est courbée depuis 18 ans, et là il nous est dit « Et il lui imposa les mains, à l'instant elle se redressa et glorifia Dieu ». Mais en règle générale, Jésus chassait les démons par la parole, en leur ordonnant de quitter. Les malades, il leur imposait les mains. Il y a des situations différentes, comme celle de Luc. Cependant, je crois qu'autant que possible, si nous pouvons ordonner simplement, c'est ce qu'il y a de mieux. Comment priait-il encore ? Eh bien, il ne priait pas n'importe comment, il priait en son nom. Regardez dans Actes 3, verset 6, et c'est mon quatrième point. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Pierre n'a pas dit « En mon nom » ou « Dans ma force ». Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et ensuite, remarquez encore une fois le contact physique. Il lui donne la main pour le lever. Et c'est au moment où il lui donne la main, où il le saisit, que la puissance de Dieu vient sur l'homme et il se lève. Frères et sœurs, ne négligeons pas ce que dit l'Écriture et soyons conscients également de la sainteté de la démarche. Prions selon ce que dit l'Écriture. Nous ne prions pas au nom d'une église, nous ne prions pas en notre propre nom, nous prions au nom du Seigneur Jésus. Vous savez, je parlais tout à l'heure de posséder. Un jour, on m'appelle à l'hôpital, je vous l'avais déjà dit, je le redis encore une fois, parce que pour moi, ça avait été tellement fort, j'arrive à l'hôpital pour un jeune homme qui était là depuis des jours, hospitalisé avec une forte fièvre, et les médecins n'arrivaient pas à faire baisser cette fièvre. Alors il était vraiment mal quand je suis arrivé, il était tout rouge, il était bouillant. Et je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. D'ailleurs, ce jour-là, j'avais mon programme, un frère était venu me chercher pour aller prier avec ce jeune, à la rigueur. Je n'avais pas forcément envie d'y aller. Je pense que le diable savait déjà. Parce que de l'autre côté, j'étais sollicité par ma tante pour manger un gâteau d'anniversaire. Donc, vous allez me dire, mais il est peu spirituel celui-là. Mais oui, voilà comme on est parfois, entre le gâteau et les démons, on préfère le gâteau. Je les préfère toujours encore. Bien, j'arrive à l'hôpital, je rentre dans la chambre, et j'étais moi-même très pressé parce que je voulais retourner à ce gâteau. Puis j'arrive, je vois ce jeune homme qui est là, ce frère qui m'y emmène. Je dis, ça va pas ? Il dit, j'ai beaucoup de fièvre et puis on ne peut pas m'en... Je dis, bon, je vais prier pour toi. Seigneur, merci parce que tu remplis ce lieu de ta présence. C'est en ton nom que je lui impose les mains. Je me suis dit, les infirmières, le docteur, j'ai tout de suite regardé s'ils n'arrivaient pas. Attendez, vous savez, j'avais le cœur ici, tourou, tourou, tourou. Alors, mais il a hurlé. Et il a perdu connaissance. J'ai dit encore ça. J'ai dit, oh, oh. Il revient, lui. Je dis, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il dit, quand vous m'avez touché avec les mains, c'est comme si des millions d'aiguilles sortaient de ma tête et je ne sais plus rien. Il était guéri le même jour, plus de fièvre, il est rentré à la maison. Au nom de Jésus, les démons sont chassés. Mais j'ai dit au Seigneur, la prochaine fois tu me préviens, comme ça je ferme la porte. Je mets le matelas devant. Jésus guérissait également par d'autres moyens. Allez, je vais vous en donner. Et ensuite, on termine. On lui amena un homme qui était sourd. Et chers téléspectateurs, pendant que vous regardez, le Seigneur peut vous toucher là où vous êtes, parce qu'il est omnipotent, omniprésent. J'ai vu une dame, j'ai entendu le témoignage d'une dame que je connais personnellement, je m'adresse là aux téléspectateurs. Elle était paralysée, elle était dans son fauteuil roulant, elle regardait une émission, par la foi, elle ne pouvait pas toucher le prédicateur, elle a touché son poste de télévision, elle s'est levée, elle a été guérie, elle est aujourd'hui servante du Seigneur. Il n'a pas de limite. Du temps de Jésus, il n'y avait pas de téléphone, mais je suis sûr que Jésus aurait aussi prié par le téléphone. Amen. N'allez pas dire, ah ben je ne peux pas prier pour toi, je ne peux pas te toucher. Vous agissez par la foi et vous intercédez pour le malade. Maintenant, je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas un manuel qui vous dit exactement ce qu'il faut faire, même s'il y a pour certains points des lignes très précises, l'onction d'huile par exemple, ou l'imposition des mains. On lui a amené un homme qui était sourd et avait de la peine à parler. Et on le supplia de poser la main sur lui. Alors Jésus l'emmena seul avec lui loin de la foule. Tiens Dominique, viens, faut voir. Non ? Il mit ses doigts dans les oreilles de l'homme et lui toucha la langue avec sa propre salive. Comprenez pourquoi je voulais Dominique pour vous faire la démonstration. Avec Jean-Claude, ça m'aurait gêné. Puis il leva les yeux vers le ciel, soupira et dit à l'homme « Ephphatha », ce qui signifie « Ouvre-toi ». Aussitôt les oreilles de l'homme s'ouvrirent, sa langue fut libérée et il se mit à parler normalement. Voilà un autre moyen, une autre manière que Jésus a utilisée pour prier. Cependant, il ne nous l'enseigne pas comme une constante. Le Saint-Esprit peut-être un jour pourrait m'amener à quelque chose de particulier, d'exceptionnel. Lorsque j'étais au Sénégal, à un moment donné, l'Esprit de Dieu me dit « Tu frappes dans les mains et la puissance de mon esprit va descendre sur eux. » Frères et sœurs, je n'ai jamais vu qu'on frappait dans les mains pour que la puissance de Dieu descende. Le Saint-Esprit ce jour-là me l'avait dit. Je l'ai fait une fois dans ma vie, c'est ce jour-là. Mon frère Claude Schmerber en est témoin, son épouse Dominique en est témoin. La puissance de Dieu est descendue comme je ne l'avais encore jamais vécu dans ma vie. J'ai fini par terre, dans la poussière, en pleurant. Tellement l'onction était grande. Regardez, Jésus, par exemple, il voit là un homme aveugle. Après cela, il dit cela. Après avoir dit cela, il a dit, voilà ce qu'il utilisa comme méthode. Il cracha par terre. Pouh ! Il fit de la boue avec sa salive. Ça sent bon la salive, hein, je ne sais pas si vous savez. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Moi je me dis, heureusement qu'il était aveugle. Croyez pas ? Non, franchement, si j'avais vu le truc, pouh, ah. Si j'avais pas été aveugle, j'ai... Il lui applique et l'aveugle voyait. Sœur, frère, tiens, Marthe, qu'est-ce que tu dirais si un jour tu t'avances pour l'imposition des mains ? Je dis, le Seigneur va te guérir. Ou t'as mal aux yeux ? Pouh ! Mais vous riez parce que ça nous montre à quel point dans nos esprits on est. Mais c'est pas hygiénique ! Tu crois que l'aveugle il en avait quelque chose à faire, que c'est hygiénique comme nous ? Lui, il l'a vu après, le reste, il s'en fichait. Frères, sœurs, regardez ce qu'il a dit de Paul. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Pierre, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Je sais que c'est le papa Jean, là, une fois expérimenté, quelqu'un a pris son mouchoir et allé le mettre sur un malade, le malade a été guéri. Mais encore une fois, et j'insiste là-dessus, ce n'est pas une constante. C'est quelque chose que seul l'esprit peut nous emmener à faire. Souvenez-vous ce que nous avons dit au départ. Dans les évangiles, vous n'avez pas un manuel. Si vous suivez le maître qui guérit, vous devez comprendre le Père qui le guidait et l'esprit qui lui donnait la puissance. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne vous lancez pas dans des pratiques simplement parce que vous vous dites, tiens, on pourrait faire quelque chose d'autre. Je sais que nos frères gitans, au début, quand ils étaient venus dans la région ici, les frères voulaient faire l'onction d'huile, mais ils ne savaient pas comment ça marchait. Ils ne l'avaient jamais fait. Ils ne savaient pas quelle quantité. Donc, ils ont eu un malade. Ils ont fait un cône avec un papier journal. Ils l'ont mis et la bouteille... Ah, du coup, elle coulait comme sur la barbe d'Aaron, l'huile. Hein, le malade a été guéri. Mais je crois qu'un litre d'huile y a passé. Ça, c'est pas manque de connaissance. Cependant, ne commencez pas maintenant à aller cracher aux gens dans les yeux ou le dire, le Seigneur me montre qu'il faut que je te tourne le nez en pinçant. Et vous disiez que c'est l'esprit qui vous conduit. Je dis ces choses parce que je crois que l'enseignement ne serait pas complet si on n'avait pas parlé de ces choses-là. Elles peuvent arriver, Dieu peut les permettre. À lui seul soit la gloire. Mais Dieu peut également permettre une guérison toute simple. Ma sœur Esther, kannst du aufstehen? Ma sœur Esther, je vais essayer de me rappeler de ton témoignage courtement. Ma sœur Esther est arrivée un dimanche matin ici à la fin d'un culte. Je crois que c'était de ce côté-là. Notre sœur était hospitalisée avec un cancer. Je ne sais plus, c'est un cancer de l'utérus ou du je ne sais plus quel cancer c'était. L'utérus. La vessie, pardon. Cancer de la vessie. Le sang coulait, elle était hospitalisée. Elle a demandé au médecin s'il la laissait partir. Ils étaient contre parce qu'il devait y avoir une intervention chirurgicale. Elle était déjà donc à l'hôpital pour l'intervention. Elle est venue là le dimanche matin. Et à la fin, elle me dit simplement, frère, vous ne pourriez pas prier en faisant l'onction d'huile. On a fait l'onction d'huile, simplement, là. Elle est repartie à l'hôpital, et subitement, il n'y avait plus de sang. Elle pouvait aller normalement aux toilettes, plus de sang. Le lendemain, lorsque les dernières auscultations ont été faites pour l'intervention chirurgicale, on n'a plus rien trouvé. Notre sœur avait été guérie. Ils l'ont gardée une semaine. Noch eine Woche haben sie dich zurückgehalten, hein? Ils l'ont encore retenu 15 jours à l'hôpital pour vérifier et revérifier encore. Il est merveilleux, mon Sauveur. Il est toujours le même et il ne change pas. Nous avons vu des malades être guéris pendant la Sainte Cène. Dieu utilise des moyens particuliers par la télévision, par une émission radio. Une dame qui a été baptisée. C'était sur Phare FM. Écoutez Phare FM. Je reçois une parole de connaissance à la radio. Et la parole dit, il y a une dame, madame, vous êtes en train de nous écouter pour la première fois. Vous avez une grosseur, je crois que c'était au sein gauche. Dieu vous touche maintenant. Cette dame écoutait la radio. Mais écoutez comment ça s'est passé. En fait, elle cherchait une émission sur France Inter. Elle avait de graves problèmes de famille. Et l'émission sur France Inter devait... traiter le sujet de la famille. Elle cherchait France Inter, en balayant, elle passe par Phare FM, et là, elle s'arrête, elle dit, votre voix m'a arrêté. Alors, elle écoute, et au moment où elle écoute, elle dit, j'entends ce que vous dites, une dame écoute pour la première fois, à une grosseur au niveau du sein gauche, c'était exactement ça, mais elle me dit, monsieur, je suis universitaire de formation, et dans ma tête, tout me disait « Non, c'est pas possible !» Mais en même temps, j'étais en train de ressentir une présence et je comprenais pas entre ce que ma tête me disait « C'est impossible !» et ce que j'étais en train de vivre à ce moment-là. Elle me dirait « La présence de Dieu est descendue sur moi. » Elle est retournée faire, elle est allée faire des examens. Elle avait été totalement guérie. Son foyer a été reconstruit. Elle est baptisée aujourd'hui et elle appartient à une église locale de la région. Est-ce que c'est pas beau? Tous les moyens lui sont possibles. Je conclus. Si nous prions, il nous faut prier avec foi. Et dans tout ce que j'ai dit ce matin, évidemment, gardez en mémoire la souveraineté de Dieu. Hein. Mais priez avec foi. Lorsque Jésus verra des aveugles, deux aveugles, il est dit, au moment où Jésus partit de là, deux aveugles se mirent à le suivre en criant, « Aie pitié de nous, fils de David !» Quand Jésus fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, il leur demanda, « croyez-vous que je peux faire cela ? Ils lui répondirent, oui, maître. Alors Jésus, encore une fois, leur toucha les yeux et dit, Dieu vous accorde ce que vous attendez avec foi. Celui qui s'approche doit venir avec foi. Celui qui prie doit prier avec foi. Et la gloire du Seigneur sera manifestée. Pourrions-nous fermer nos yeux, nous lever ? Avant que vous ayez l'occasion d'aller à la vente missionnaire, et je vous encourage vraiment à y aller, je voudrais simplement, pendant que nos yeux sont fermés, terminer en disant la souffrance, frères et sœurs, la maladie, la mort, près de Jésus ne sera plus. Dans Apocalypse 21, verset 4, il est dit, « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. » Et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Cependant, en attendant ce jour grand et glorieux, je voudrais nous rappeler les paroles de Jésus, les paroles d'Ésaïe, pardon, au sujet de Jésus. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Pierre dira, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Je voudrais terminer, alors que nos yeux sont fermés, cette série sur la guérison divine en rechantant le chant que nous avions chanté lors du premier message. Je suis celui qui te guérit, je suis ton Dieu. Ton sauveur. Je suis celui qui te guérit. Je suis ton Dieu, ton sauveur.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.